Salut les marques, salut les smarts, salut peuple du catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team. Catch-up tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue à WWE Friday Night SmackDown, le 1155e. Du nom, ça se passe à San Jose, California, USA. Aux commentaires, Michael Cole et Pat McAfee. Nous sommes dans le Friday Night SmackDown post-draft. Et ça va avoir son importance. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué que dit. Je suis votre luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris ou tonton catch-up. Et pour m'accompagner dans cette review, nous ne sommes pas moins qu'une triple frite, les amis. Oh oui, je sais que c'est la combinaison parfaite pour les auditeurs de catch-up. La triple frite, la fameuse. Et donc, le premier pour m'accompagner. Honneur au doyen dans cette triple frite gériatrique. Je vous préviens tout de suite. J'accueille l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible. Papy, salut papy.
Bonjour les enfants, bonjour tonton, comment ça va?
Eh bien, ça va bien et toi alors? Bien au chaud là, sous ton plaid et tout, prêt à dézinguer Friday Night SmackDown?
Ah ouais, là je suis au taquet, j'ai ma verveine, j'ai mon plaid, j'ai mon petit chat, là je suis en train de le caresser, tu sais, comme le docteur d'enfer là, dans Austin Powers et tout là. Je suis le méchant type.
Et pour compléter une triple frite, il faut bien évidemment un troisième pour faire ce trio. Et ce trio, c'est tout simplement accompagné de l'archange. De notre ami Géliel. Salut Géliel, comment vas-tu?
Salut tonton, salut à tous, salut papy. Ben écoute, c'est, salut, ça va bien, on va bien, tout le monde va bien.
Tu te sens bien là?
Du haut de ces 150 ans d'âge qui vous contemple à peu près.
en direct de San Jose, California, t'es bien là, t'as les doigts de pied en éventail, tout est tranquille, tu t'es fait un petit cocktail.
Ouais. Tout va bien, assis.
Voilà, voilà tout le monde n'a pas les mêmes moyens, vous voyez, pour enregistrer à catch-up. Mais c'est parfait, on va pouvoir attaquer ce 1155e. SmackDown, les gars, c'est parti au programme. Un épisode chargé, hein, chargé en émotions, parce que déjà, on va commencer les tournois King of the Ring et Queen's Crown, qui ont donc été annoncés et qui vont se dérouler, on va en parler après. Et on va avoir des petits rappels de la tête de la table, un petit retour aussi sur la rivalité Seth Rollins et Edge, les femmes, enfin bref, c'est plutôt complet. Et on va commencer directement avec la signature du contrat pour le WWE SmackDown Championship à Crown Jewel, qui va opposer Becky Lynch, Sasha Banks et Bianca Belair. Alors, les trois, elles entrent, mais il n'y a personne qui finalement veut véritablement s'approcher de Bianca Belair qui est sur le ring. Sasha Banks va rester debout sur la table des commentateurs et Becky Lynch a installé sa propre table, en fait, hein, tout simplement, sur la rampe et va se mettre à l'aise. Alors, ça va se vanner, ça va se chambrer, mais Bianca Belair, elle ne comprend pas trop. Elle aimerait bien que les deux autres viennent un peu se frotter à elle au milieu du ring. Alors Becky va être quand même un peu la première à parler pour expliquer un peu la série de défaites de Bianca. Elle va se moquer de la tenue de Sasha. Enfin bref, tout le monde va en prendre un peu pour son grade. Finalement, Bianca va quand même tenter de remettre un peu la signature du contrat sur la table parce que c'est un peu le but, quoi. Et elle leur demande de venir. Becky et Sasha vont quand même mordre un hameçon et vont venir sur le ring. Et ce que craignait un peu tout le monde, sauf le public, c'est que ce qui arrive devait arriver, c'est-à-dire la bagarre. Et voilà, les trois se bagarrent sur le ring. Et tout ça, ça va finir à l'avantage de Bianca Belair, qui va nous passer un move monstrueux. Alors là, on va parler de dorsaux, de développé couché, de puissance dans les épaules, de la solidité des appuis de Bianca Belair, parce qu'elle va choper les deux femmes et elle va les faire tout simplement passer à travers une table. Alors, je vais commencer avec Géliel, tiens. Mon bon Géliel, donc cet opener de SmackDown avec les trois femmes fortes actuellement hein, à la WWE et ce Kiss of Death phénoménal qui se termine sur la table pour Becky et Sasha, est-ce que ça t'a mis dans la vibe de ce SmackDown?
Bah oui, j'ai trouvé ça très sympa. C'était aussi sympa que chacune ait leur position, elles en démordaient pas. Alors il y avait la pauvre Bianca qui avait un petit côté vert, leur disant bah allez venez signer le contrat quand même. Becky Lynch qui en avait rien à foutre, les pieds sur son bureau qu'elle avait improvisé à côté du Titantron. Et puis alors Bianca qui était carrément Sasha. Je pensais à Charlotte en même temps. Sasha qui était debout sur la table des commentateurs. Oh, ça donnait un bon moment, bien sympa. Après la fin, effectivement, Belair encore une démonstration incroyable de force où elle porte les deux là sur les épaules. Il y a Sasha qui tombe, qui lui met un coup de pied, mais qui en profite pour s'en prendre une également. Elle tombe sur la table et elle balance en mode F5 la Becky. Waouh, Waouh. Non, c'est très sympa. Le public a bien accroché. Ça permet de partir très très correctement sur le pay-per-view. Allô?
Allô,
Papy?
ouais. Ah,
Ah.
oula, il y a eu un trou, ouais.
On a eu un trou d'air, pas plein de ketchup, je sais pas ce qui s'est passé. Papy, papy, allô,
Ah,
papy, est-ce que tu
je suis
m'entends?
là. Je suis là. Oh oui, je vous entends. Allô, allô, oui.
Oh, bon alors, papy, Becky, Bianca, Sacha, le
Bah
trio
oui,
infernal.
Trio Infernal, c'est bien réparti là pour l'ensemble, pour occuper l'ensemble de l'arène. Avec bah eux, se sont envoyés des. Elles se sont envoyées des fions dans la gueule. L'ami Becky, qui en pleine forme en ce moment, je trouve, au micro, elle parle beaucoup, 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 mais quelque part, je trouve qu'elle est jamais trop aussi douée au micro qu'en ce moment, en fait, à vraiment bâcher tout ce qui bouge. Sacha, bon, qui est plutôt neutre dans cette affaire, et Bianca surtout, bah, qui s'impose vraiment comme la top face. Je me demande, c'est pas la top face actuellement de la WWE, Sacha, Bianca. En ce moment, elle est vraiment très très forte. Elle finit avec un move en plus. Alors, c'est pas plus, j'aurais plus dit un FU qu'un F5, mais assez impressionnant. Alors, même si je pense qu'au début, là, ils ont peut-être voulu qu'elle balance les deux d'un coup, mais c'était peut-être un petit peu trop ambitieux. Donc, finalement, on a balancé l'une sur l'autre. Mais c'était quand même très impressionnant. Et puis voilà, les filles, après avoir fait des openers, des main events, bah, elles ont de nouveau un opener. Et puis, de nouveau, elles ont du pâté.
Ouais, pas de doute là-dessus. C'était solide. C'était assez marrant les attitudes des trois en fait. Et comment Becky va retourner ça de sa propre table finalement pour venir au ring et tout. J'ai trouvé que c'était plutôt rythmé et tout ça quoi. Et ça mettait ça ambiance pour la suite. Ça augure d'une belle triple menace à Crown Jewel. Et puis t'as raison papy. Ce point top babyface pour Bianca Belair. Oui. Je dis mille fois oui. Quand on voit ce qui se passe du côté de Raw, etc., je dis que Bianca Belair, ouais, en ce moment, elle est dans la position quasiment de la top babyface de la fédération, quoi. Et c'est bien, quoi. Girls!
Il n'y en a pas
Ah.
beaucoup d'autres, hein.
Non, non, il n'y en a pas beaucoup d'autres, non, c'est clair. Donc, au final, non, 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 c'est un sacré trio, là, hein, avec, tu rajoutes à ça quand même quelques compétitrices malgré tout. Il n'y a pas que L3, mais là, c'est vrai que là, ça fait une bien belle rivalité pour cet automne 2021. Allez, on va quitter les femmes un peu. On va rejoindre un peu la famille, les Los Mysterios et Dominique Mysterio qui va affronter pour le premier match du tournoi du King of the Ring.
Ouais, c'est
Je vous
vrai, c'est
propose,
vrai.
une petite analyse King of the Ring, Queen, etc., des tableaux à la fin de la fin de la review. On va juste déballer le SmackDown pour l'instant. Et donc le premier match qui va lancer cet épisode, Rey Mysterio qui affronte Sami Zayn, il est persuadé qu'il va gagner hein, contre Sami Zayn, hein, parce que ça, il trouve ça déjà écœurant qu'il y ait la présence de Sami dans le tournoi. On sait pas trop pourquoi, c'est pas tellement expliqué, mais bon, c'est comme ça. Un match assez anecdotique. Je vois ces deux-là arriver sur le ring. Moi, je vous cache pas que sur le moment, je me dis, oh là là, c'est du lourd. Et au final, on va avoir un match de 8 minutes, plutôt assez sage, avec pas mal de signatures moves de Ray Ray et de Sami. Et finalement, le match va surtout compter pour ce qui va se passer à la fin, puisque Sami Zayn va réussir à battre Ray Mysterio par tomber avec un roll-up, en profitant d'une petite distraction causée par le fiston Dominique, qui normalement était censé rester en coulisses. Hein. Donc le retour à la maison va être un peu compliqué dans la famille entre père et fils. Victoire de Sami Zayn, qui avance donc pour les demi-finales du King of the Ring, papy!
Yes, bah oui, effectivement, le match en lui-même n'a pas de moment trop marquant. Il est vraiment, vraiment dans l'histoire des bisbilles entre papa et fils Mysterio. Je me demande d'ailleurs comment ça tournait cette affaire, parce que si je dis pas de bêtises, les deux Mysterio vont à Raw tandis que Zayn reste à SmackDown. Donc du coup, c'est difficile de semaine. Il n'y aura plus cet embrouille avec les trois. Donc ça va certainement du coup rester entre le père et le fils. J'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer. Et puis bah ouais, j'ai juste une petite déception, alors même si on a dit qu'on venait sur le tournoi plus tard, mais c'est de me dire que bah Samy se qualifie en demi-finale, mais d'un autre côté, comme la finale elle est Ariad,
Que j'allais
bah
dire. On
j'ai
connaît
pas trop
quoi.
d'espoir pour lui pour se qualifier en finale, quoi.
Et malheureusement, je pense que tout le monde aura fait le même constat. Hein. Je pense que là, tu dévoiles, c'est pas tellement un spoiler, mais malheureusement, tout le monde sait à peu près dans le monde du catch international que Sami Zayn ne se déplace pas dans les shows en Arabie Saoudite. Ça avait été confirmé déjà pour celui de 2020 et ça l'aura été de nouveau pour celui de 2021. Géliel, toi, du coup, ce Sami Zayn, Rey Mysterio, père et fils, les pères et fils quand même qui sont en bise-bise là, et ça va pas trop. Et c'est assez étonnant parce que d'un autre côté, dans la presse traditionnelle, on va dire catchesque, Rey Mysterio, lui, il dit qu'il a pas tellement envie de cette rivalité avec son fiston. Tu comprends ça ou tu penses que c'est que du bidon? C'est que le kayfabe.
Alors pour le match en lui-même, je l'ai trouvé pas si mal que ça. Il y a quand même eu des moves avec des contres de Mysterio qui montrent encore des choses à son âge incroyables.
Ah ouais.
Quoi.
Ah ouais.
Franchement, le match était alors peut-être anecdotique parce que moi la fin finalement elle m'a finalement surpris parce que je pensais qu'ils allaient l'éliminer, enfin qu'il allait perdre plus tôt pour justement éviter ce côté on connaît l'issue d'une éventuelle victoire de Zayn en demi-finale forcément. Encore qu'il peut aller encore finale, mais bon. Non, puisqu'il y a la Crown Jewel, je suis con. Donc forcément, l'issue de l'admission, on la connaît un petit peu, comme tu disais, tonton. Le match en lui-même, pas mal. Par contre, sur la rivalité, alors Zayn en fait des tonnes, mais ça met la couronne, où il est dans son rôle, et ça va bien. Par contre, je trouve que ça avance plus trop là sur la rivalité entre Rey et Dominique. Alors peut-être que c'est parce qu'effectivement, avec le poids qu'il peut avoir dans la fédération, Rey n'est pas hyper fan de la rivalité, peut-être qu'il demande à lever un peu le pied sur ce côté-là. C'est peut-être ce qui fait que ça avance plus beaucoup. Parce qu'avant, il s'engueulait, on a bien vu aussi Dominique qui repoussait son père une fois ou deux, etc. Là, c'est l'inverse, c'est Dominique qui fait une distraction pour son père qui perd. On n'en a pas trop fait des tonnes, il n'y a pas eu de segment post-match qui en parlait, donc c'était un peu spécial. Donc ça avance pas beaucoup, quoi. Voilà. Le match, pas mal, le tournoi, j'adore, les éliminatoires, j'adore, je suis ultra fan du truc. Et puis ça donne du sens au match, je trouve ça génial. Ça avance pas beaucoup la rivalité, donc je suis un peu sur le, ouais, un peu en retrait par rapport à la décision de donner la victoire finalement à Sami Zayn, par rapport à tout ce qui s'ensuit.
Exactement. Et ce qui s'ensuit, ça, d'abord il va y avoir une petite interview de Seth Rollins hein, pour expliquer ses agissements de la semaine passée où on revoit son intrusion chez Edge. Il va expliquer qu'il avait prévenu qu'il irait jusque chez lui s'il recevait pas de réponse à son challenge. Il a toujours pas cette réponse, donc il va y remédier, on imagine, dès ce soir. Donc on s'attend à l'arrivée de Seth Rollins à un moment ou à un autre pendant le show. On va enchaîner avec le premier match du tournoi, du Queen's Crown, le premier quart de finale qui oppose Zelina Vega à Toni Storm. Zelina Vega, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez eu la même sensation que moi par rapport au public? J'ai pas senti ni de pop ni de hit, j'ai juste senti un peu du on s'en fout, non?
C'est le fin fond de la low card, hein, les îles à Vega, donc je suis pas étonné. Hein.
Ouais, pareil.
Ouais, bon, pareil. Donc on a eu la même impression, quoi. Hein, donc le public aussi s'en foutait, quoi. San José était pas en feu hein, avec Zelina Vega. Hein, c'était pas. Et le match, de toute façon, ne sera pas en feu, lui non plus, puisqu'il va durer 2 minutes 10. Alors là, moi, je vous avoue, à mon grand étonnement, hein, parce que je m'attendais pas déjà à la victoire de Zelina Vega, puisqu'elle va battre Toni Storm par tomber avec son code red. Alors elle sortait d'une losing streak horrible, hein, puisque je crois qu'elle avait perdu 75 matchs sur 81. Et là, elle vient d'en gagner deux consécutifs, et dont un qui la qualifie pour les demi-finales du tournoi des Queens. Toni Storm, est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait une bonne impression durant ce match? J'ai du mal, en 2 minutes 10, en tout cas, le push est pas là. Et c'était un peu abusé, ça donne pas trop d'importance au tournoi. Je trouve que c'était un peu foiré cette entrée en matière du tournoi féminin, Géliel, non?
Bah, disons qu'ils auraient pu attaquer avec un des segments peut-être un peu plus intéressant, histoire de lancer l'intérêt sur l'ensemble du tournoi, quoi. Là, Zelina Vega, il n'y a personne qui a envie de la voir, encore moins catché. Toni Storm, c'est vrai qu'elle arrive, elle a besoin d'un push, elle paume contre le fin fond du fait tout de la low card sur ce tournoi-là. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Puis en plus, elle n'a rien pu montrer, donc effectivement, Zelina Vega non plus, mais ça, on ne s'attendait pas à ce qu'elle nous montre quoi que ce soit depuis le temps. Mais enfin, voilà, très, très, très peu d'intérêt pour ça.
Papy?
Ouais, je suis alors déjà, pareil, on verra plus tard, mais le line-up du tournoi féminin, je trouve vachement faible par rapport au tournoi masculin.
Ouais.
C'est vraiment, enfin, là, ce match-là était pas terrible sur le papier. Le match suivant sera pas terrible sur le papier non plus. Et côté Raw, ça fait pas non plus vachement rêver, quoi. Donc, partant de ça, tu te retrouves avec Toni Storm contre Zelina Vega. Je pensais aussi que Toni Storm allait s'imposer parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de face, cette fois, contrairement au masculin, là, il n'y a pas beaucoup de face côté tournoi féminin. Et puis, je me disais que c'était peut-être le moment de la lancer un petit peu dans le main roster. Bon, c'est pas le cas. Je suis essayé Navega. C'est pas un scandale non plus pour moi, parce que de toute façon, je pense que pour avoir des bons vainqueurs potentiels des tournois King et Queen of the Ring, il faut miser surtout sur des personnages qui sont plutôt orientés heal. Et donc, du coup, bah, au moins, ça laisse un peu plus de suspense avec Zelina qui est tour en course. Mais bon, c'est. Ouais, voilà, à part ça, rien de plus. Hein.
Ouais, je mets un package d'ailleurs, puisqu'il va y avoir un deuxième match pour le Queen's Crown de ces premiers quarts de finale. C'est Carmella qui va affronter Liv Morgan. Alors, ça va être exactement dans la même veine, ça va être même pire, puisque ça va, c'est un match qui va durer 1 minute 40. Et alors, qui m'a laissé aussi perplexe, puisque. Alors, en voilà une, Liv Morgan qui, sur les réseaux sociaux, etc., a toute sa petite communauté et machin, etc. Il y en a plein qui réclament à corps et à cri le main event pour Liv Morgan et tout ça. Et là, ça s'est mal passé, hein, parce que elle perd par tomber en se prenant le super kick de Carmella dans la tronche. Encore une fois, le temps d'antenne pour ces deux matchs, mis bout à bout, c'est aller avec les entrées, tout ça, c'est 5-6 minutes. Et voilà, terminé quoi. Du coup, Carmella avance en demi-finale du tournoi, papy. Donc on reste un peu dans la même mouise là. Hein.
Ouais, après, c'est pour le coup, du coup, on aura une vraie demi-finale surprise. Hein, parce que Carmella versus Zelina Vega, je le voyais vraiment pas du tout venir. Et pour le coup, j'ai aucune idée de qui va se qualifier pour la finale. Même si je mettrais plus sur Carmella et encore, pfff. C'est deux heals hyper chiantes au micro, enfin chiantes dans le sens heal. C'est-à-dire qu'elles énervent bien le public. Donc en Queen of the Ring, elles feraient bien le taf l'une et l'autre. Pour la petite Liv, bah ouais, je pense que ça. Moi je l'aime bien. On voit qu'elle y met de la bonne volonté. Après, de leur parler de main event pour elle, faut quand même pas déconner non plus. C'est in-ring, c'est encore moyen plus, on va dire, en étant très gentil. Elle a une bonne pop. Mais bon, après, ça reste de la low-card aussi. Hein.
Bah, on s'appelle parti. Non,
Julien, vas-y.
Je pense à peu près pareil, à part que. Effectivement, le match était vraiment pas terrible. Mais je pensais quand même. Je trouve que pour l'image, ça valait le coup, je pense, de pousser un petit peu. Merde, comment ça s'appelle ? Tain, Lyon, ça va pas aujourd'hui.
Liv.
Oui, exactement, Liv Morgan. Par rapport à, j'ai l'impression que ça va mieux. Elle a sorti un chouette move à un moment là, contré un peu en l'air, etc. Où on voit que bah ça bosse quoi, ça bosse et que ça aurait peut-être mérité un peu plus. Carmella insupportable avec sa voix de crécelle suraiguë là. Je n'en peux plus. Et donc on va encore se la taper encore un tour. Plus avec l'histoire du masque là qui était complètement ridicule. Enfin bref. Ouais, je pense que c'était l'occasion sur un truc qui finalement, si elle perd en demi-finale, il se passe pas grand chose. Si elle perd en finale, il se passe pas grand chose non plus pour Liv Morgan. Ça aurait permis, sans dire effectivement comme toi, de la mettre en main event, en l'arrêtant en demi-finale, de lui donner un petit push, de continuer un petit peu le truc. Voilà, c'est pas le cas, dommage. On va se retrouver avec effectivement avec du Zelina Vega, dont j'ai absolument rien à foutre, et du Carmella que je déteste, en demi-finale. Bon, et ben voilà, dommage.
Allez, petit exercice de style. Maintenant, trois moments qui seront passés. Alors, on aura d'abord Mace en interview, qui donc est seul hein, dorénavant à SmackDown et qui fait une petite promo pour nous dire qu'il n'est pas là pour rivaliser avec les autres, mais bien pour les détruire grâce à sa puissance et sa force. C'était l'instant Mace. On aura l'instant Naomi qui va confronter une nouvelle fois Sonya Deville, qui va lui demander pourquoi elle n'est pas dans le tournoi. Et d'ailleurs, on se demande bien pourquoi elle n'y est pas dans le tournoi. Et Sonya lui répond qu'elle a prévu autre chose pour elle la semaine prochaine, car elle a décidé de s'occuper elle-même de son cas en l'affrontant la semaine prochaine. Donc on nous annonce un match Naomi-Sonya. Et enfin, le troisième moment, ça sera le moment du Happy Talk avec Happy Corbin et Madcap Moss. Qui vont venir faire quelques blagues bien grasses avant que Kevin Owens ras-le-bol, et il a bien raison, vienne les attaquer. Mais Kevin Owens intervient toujours à SmackDown et toujours pour casser la gueule à Happy Corbin. Mais bon, les Happy Men vont quand même prendre l'avantage et vont finir par détruire notre ami québécois. Voilà, Géliel, c'était un peu toute la partie mid-card, des filles, des hommes, des nouveaux arrivés. Mace, Kevin Owens, Naomi, c'est à toi.
Alors Mace, aucun avis, hein, on va attendre de voir ce que ça donne in-ring avant d'avoir un avis. Bon, pas d'avis. Sur la partie Naomi, bah, étonnant, quand effectivement Sonya Deville lui répond, bah écoute, ça va être contre Mi, le match. Pourquoi pas, retour dans le ring de Sonya Deville, j'ai jamais trouvé trop... Ouais, trop extraordinaire, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là, ça fait quand même un an qu'elle n'a pas catché. Faudra voir ce que ça donne. C'est jamais terrible déjà sur les gros main eventers qui s'arrêtent. On est toujours un peu étonné de voir comment ça va revenir. Alors sur ceux qui étaient déjà entre le mid et le low, on va voir ce que ça donne. Bon, par contre, j'espère que ça va permettre à Naomi d'être un peu plus en visibilité parce que j'aime beaucoup entre son style et puis voilà ce qu'elle apporte, l'émotion aussi qu'elle a avec le public, la communion avec le public, où ça se passe généralement vachement bien. Et puis sinon, bah avec le Byron Corbin, Happy Corbin, moi il m'inquiète les deux à rigoler de manière hystérique comme ça là pour tout et n'importe quoi. Et puis bah c'est pareil, ça avance pas beaucoup. Il y a Kevin Owens qui revient à nouveau se faire massacrer. Alors effectivement, il vient parce que les autres sont lourds au possible, donc ça c'est très bien. Maintenant ça se termine encore de la même manière, il se fait massacrer. Alors un coup c'était avec Logan Paul, maintenant c'est avec machin. Bon, ça avance pas beaucoup quoi, on va dire, ça avance pas beaucoup. Voilà sur les trois segments dont tu parles.
Papy, toi, ça avance ou ça recule?
Ouais, après les. Alors, pour je vais essayer de les prendre dans le désordre parce qu'en plus j'ai oublié le premier. Corbin, Happy Corbin et Owens. Ouais, ils sont en train d'installer le nouveau personnage avec Riddick Moss. Et puis en plus Owens, il va se barrer à Raw. Donc de toute façon, là c'est la fin de leur rivalité. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Ouais, ça me gêne pas plus que ça. C'est vraiment plus la transition tant qu'ils prennent pas trop de temps dessus, ça va. Naomi, elle commence à, elle se réinstalle en tout cas en tant que personnage dans le roster. Alors moi, je rêve toujours de la voir passer heel, mais là, clairement, son booking est la met en tant que forte face, peut-être même une des futures faces de SmackDown vu la draft. Il a un peu développé la tête de SmackDown en virant et Liv et Bianca. Donc peut-être que c'est sur Naomi qui vont miser, du coup, à voir. Et puis le troisième segment, du coup, c'était quoi, du coup? J'ai oublié.
Mace.
Mace.
Ah, Mace. On s'en fout de Mace.
Allez, on s'en fout. Allez, on revient sur la tête de la table, tiens. Voilà, allez, allez.
Juste un tout petit truc. Juste un tout petit truc par rapport à ce que tu disais, papy, par rapport à Naomi. Moi, j'aurais, et on en avait parlé les semaines précédentes, ça m'aurait vraiment fait plaisir, un truc où elle se fait vraiment bâcher, Naomi, où elle s'énerve, elle passe heel, et elle rejoint la Bloodline. Et là, je trouve qu'il y avait des trucs vraiment super sympas, quoi, à faire. Alors, comme tu le dis, il n'y a plus du tout de tête face côté SmackDown, donc il y a de bonnes chances que ça lui retombe dessus. Mais j'avais imaginé que ce truc-là, ça pouvait donner des trucs assez originaux et plutôt sympas. Voilà.
Ah, fin de... J'étais dans la ligne directe de ce que tu penses. C'était vraiment ça que je pensais. Et je pensais vraiment que le fait de l'avoir s'énerver, en plus, elle avait été un peu violente avant, tu t'es dit, tiens, elle a peut-être. Ta cape complet, mais là en ce moment elle est plutôt ouais, surtout pour affronter Sonya Deville, c'est très dur de la faire passer heel en la faisant affronter Sonya Deville, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Allez, on revient à la tête de la table là, hein. C'est bon, on a fini avec les fonds de tiroir. Là, cette fois-ci, c'est Roman Reigns. On arrête de déconner, qui fait son entrée accompagné de Paul Heyman, de Jay et Jimmy Uso. Il va demander au public de le reconnaître avant de lui ordonner de faire la même chose pour Paul Heyman. Il avait un travail à faire et il l'a fait. Maintenant, il aimerait clarifier un point un peu compliqué dans sa relation avec son conseiller spécial. Il veut savoir si Heyman est le responsable de la position de free agent de Brock Lesnar, puisque ça a été annoncé la semaine dernière. Brock Lesnar sera free agent à la WWE. Heyman, il explique qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais qu'il a jamais été assez stupide pour trahir Roman Reigns. Et Brock Lesnar va juste essayer en fait de rentrer dans leur tête, mais il sait qu'il va perdre à Crown Jewel et que ça, c'est pas une prédiction, mais c'est bien. Un spoiler. Alors, comment amener ça? Vous trouvez pas que ça manque un petit peu de comment dire, de peps un peu là, ce truc entre Roman Reigns et Brock Lesnar, papy là?
Ça manque de peps parce que Brock Lesnar est pas là. C'est tu as un peu le souci quand t'as des rivalités avec Brock Lesnar ou comme t'en avais à l'époque avec le Taker ou avec des mecs comme ça qui sont à temps partiel.
La promo était pas mal. La promo était pas mal, mais j'ai trouvé ça un peu long, quoi. Ouais, voilà, ouais, tu bosses pour deux, ouais, c'est ça. Ouais.
T'es tout seul et tu bosses pour deux. Alors il y a toujours, moi je trouve très intéressant le petit jeu entre Paul Heyman et qui est terrorisé par Roman Reigns. C'est Roman Reigns qui est toujours en mode de psychopathe. Hein. C'est-à-dire que Là, il est là cette semaine, il s'était le mode de détendu en disant mais pourquoi tu te justifies, Paul? C'est pas, faut juste bâcher Brock Lesnar là. C'est à lui qu'il faut que tu parles. Moi, j'attends pas d'excuses de ta part. C'était le moment où il t'as Eman qui baisse la tête et puis t'as Roman Reigns qui l'attrape par le menton puis qui remonte la tête en disant tu me regardes dans les yeux quand tu me parles. C'est le petit copain de complet Roman Reigns et puis il est parfait dans ce rôle là. Mais effectivement, une rivalité avec Lesnar, une semaine sur deux, voire deux semaines sur trois, tu dois faire la rivalité tout seul, donc c'est pas forcément passionnant. Mais reviens la semaine prochaine, donc c'est toujours ça de prix.
Encore heureux. Génial.
Pareil. Alors que là, cette fois, le public était un peu dans notre sens, hein, puisqu'il demandait du Lesnar aussi pas mal. Donc c'est vrai que c'est de la promo tout seul, quoi, c'est un peu chiant. Par contre, le passage avec. J'ai trouvé la promo de Paul Heyman qui était vraiment, vraiment, vraiment top là, quand il s'adresse au. Enfin, quand il dit est-ce que tu penses vraiment que je serais stupide à ce point, etc. etc. Et j'ai adoré la tournure de phrase qu'il a pris quand il fait j'ai été reconnu, j'ai été condamné pour un paquet de trucs depuis que je suis dans le métier dans la WWE, et j'étais responsable d'encore plus. J'ai trouvé ça excellent. Et puis après, donc, il fait sa promo face contre caméra à la direction de Brock Lesnar. Ils jouent à fond leur mix skill, quoi. Ils font jouer à fond leur mix skill, mais ça manque d'affrontement, de se pousser, de se taper dessus, très clairement, quoi. Alors, effectivement, on a vu en vignette après qu'il était prévu pour le. C'est le superchargé de SmackDown, là, c'est ça, ouais, un truc comme ça.
SmackDown sur une autre chaîne, donc du coup, on annonce une grosse fiche pour histoire que vous veniez quand même regarder.
Ouais, voilà. Donc, il y aura un supercharge de SmackDown avec effectivement Brock Lesnar. Ce sera une semaine de Crown Jewel, hein, c'est ça, puisqu'il sera le jeudi d'après, ouais. Je crois. Bon, voilà. Ça mériterait que ça bataille un peu plus, quoi. Alors, c'est le côté part-timer pénible de Lesnar, quoi. Mais ça mériterait, vu qu'il est quand même en feu d'officiel, il pourrait quand même se bouger le cul, enfin, se bouger les fesses et venir un petit peu sur le ring. Voilà.
Ouais, c'est malheureusement quelque chose qui dure depuis des années. On est habitué à ce que les rivalités avec Brock Lesnar se passent à distance, ou des fois ne se passent même pas. Et on se souvient de Seth Rollins, sans doute, hein, qui avait tenu le micro pendant 3 mois quasiment, tout seul, tous les lundis à Raw, dans l'espoir qu'un jour il se passe quelque chose avec Brock, et il s'était rien passé. Remember aussi la rivalité avec Dean Ambrose, hein, à l'époque aussi, hein, qui avait été assez catastrophique par rapport à ça. Donc malheureusement, on retombe un peu dans ces travers-là, c'est dommage, parce que vraiment, il y a tellement de quoi faire un truc titanesque. Et du coup, moi, j'ai trouvé que ouais, ça manquait d'intensité un peu tout ça. Eman a fait du Eman, la prédiction, le spoiler et tout ça, tu vois. C'était pas moi, j'ai pas été super emballé, j'étais un peu même déçu quand même. Mais bon, c'est dû à la configuration de Brock Lesnar, et c'est comme ça, hein, c'est le traitement qu'a ce gars-là à la WWE, et on peut pas y faire grand-chose. C'est la bête fait ce qu'elle veut. il l'a bien dit d'ailleurs, il l'avait bien dit face caméra, je crois, la semaine passée, quoi. La bête fait ce qu'elle veut quand elle veut, donc c'est exactement ça. Allez! On aura eu vite fait Becky Lynch, hein, qui va rejoindre Sonya Deville et Adam Pearce, qui exige que plus de respect envers elle. Adam Pearce, c'est lui qui doit battre. Pour ça, il doit battre ses deux adversaires et prouver qu'elle mérite ce respect. La championne va signer le contrat. Tout rentre dans l'ordre. Tout est formidable, comme si on était inquiet pour ça. Mais non, je vous rassure, pas du tout. On aura un petit passage. Seth Rollins aussi qui va rentrer dans le bureau de c'est ça ouais qui rentre dans le bureau de Adam Pearce et Sonya Deville, quoi, et il a une photo, il a piqué une photo, le mec, il a chourave une photo de famille à Edge, et donc il va défier Edge dans un nouveau match, et il va nous dire qu'il va rejoindre le ring tout à l'heure. Mais d'abord, le dernier match de la soirée concernant le King of the Ring, et c'est donc un quart de finale qui va voir s'affronter Finn Bálor à Cesaro. Ma foi, une belle affiche. Et on va avoir un match de 12 minutes quand même. Quand même, on va nous donner 12 petites minutes avec notre Finn Bálor et notre Cesaro. Donc là, de quoi envoyer un vrai bon match de catch. Et c'est quand même bien ce qui s'est passé, quoi. Finalement, j'ai presque envie de vous dire que là, j'étais en train de regarder un main event de SmackDown avec deux mecs qui auraient peut-être pu être des top stars de la WWE et qui sont finalement tous main eventer par moment, mais finalement surtout des up mid-carders, Et on se dit que ça, c'est un beau match de pay-per-view aussi. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Donc, les mecs ont délivré la marchandise, nous ont livré 12 minutes superbes pour finalement une victoire de Finn Balor avec son coup de grâce, qui reste toujours létal, même si ça n'a pas été létal face à Roman Reigns. Mais comme personne n'est létal face à Roman Reigns, bah, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, victoire de Finn Balor qui rejoint donc les demi-finales et qui affrontera Sami Zayn. Voilà, les amis. Géliel?
Ouais, le match super sympa. Ça m'a fait drôle de revoir Finn Balor avec son petit short de mid-quart d'heure là, par rapport au démon en main event il y a 15 jours, quoi. Ça m'a fait un peu de peine. Mais je suis d'accord avec toi dans l'impression que ça donnait, quoi. On avait Cesaro qui était il y a pas si longtemps que ça contre Roman Reigns, et puis là il y a Finn Balor qui était il y a encore moins longtemps que ça contre Roman Reigns aussi. Les deux ont perdu, se retrouvent dans un petit tournoi un peu voilà comme ça. C'était un peu décevant. À côté de ça, le match est bon. Baylor a quand même une bonne pop sur son entrée. Les deux d'ailleurs. Et puis le match était vraiment super sympa quoi. Deux techniciens comme j'aime beaucoup. Et puis ça courait partout, ça rebondissait beaucoup. Non, vraiment rien à dire. Baylor qui gagne à la fin, je suis quand même content. Du coup, ça fait un peu le Ça pardonne un peu le truc pour moi. Mais en même temps, j'aurais bien aimé aussi voir César gagner. Enfin, c'est vraiment des matchs que j'aime pas bien voir parce que les deux, j'apprécie les deux, quoi. Voilà. Donc, on va avancer dans le tournoi. Donc, il y a Sami Zayn, le prochain coup, qui devrait pas gagner. Donc, ça veut dire qu'il y aura certainement Finn Balor en finale. À Crown Jewel. Donc, voilà ce qu'on peut retenir à peu près de ce truc-là.
Et puis, pareil, un petit cœur brisé entre Finn Balor et Cesaro ou rien à foutre?
Ah bon, rien à foutre. Non, c'est au contraire, je suis content moi, qu'ils s'affrontent. Au moins, tu as du niveau quoi, dans ce tournoi-là. Moi, je trouve que c'est bien dans un
oui, tournoi ça, comme
King of the Ring. Les deux affiches avaient de la gueule.
C'est ça, ouais. Au niveau garçon, on a plutôt été gâté au niveau du line-up. Tu avais de la mid-card, up-mid-card, ce qui est très bien pour ce type de tournoi, je trouve. C'est plus quand ils vont chercher de l'eau-cardeur. Que ça me fait chier, quoi. Voilà, Zelina, Carmela, si vous m'écoutez. Enfin, surtout Zelina, en l'occurrence. Et puis, le match était plutôt plaisant. En regardant comme ça l'affiche au départ du tournoi, je mettais bien Finn Balor dans mes favoris parce que, en plus, l'histoire de Demon King, tout ça, je me dis ça pourrait faire un truc assez sympa. Parce qu'il y a beaucoup de face dans le tournoi homme. Et donc, quitte à faire gagner un face, le Finn, il me plairait pas mal, en fait. Même si Zayn aussi, mais bon, pour la raison qu'on a expliqué, ça va être compliqué. Donc ouais, plutôt content du match, plutôt content du gagnant, et plutôt content que ce soit en main event. Effectivement, c'est, comme tu dis, c'est un revue d'affiche qui aurait pu être en pay-per-view, en opener de pay-per-view peut-être, on va pas déconner non plus.
Donc victoire de Finn Balor, qui se qualifie donc pour les demi-finales du King of the Ring. Allez, on revient sur le ring, c'était notre main event catchesque, puisqu'on va terminer avec Seth Rollins qui est donc enfin sur le ring et qui va provoquer Edge hein, en lui disant qu'il a attendu assez longtemps comme ça pour avoir cette fameuse réponse à son challenge. Il va laisser le choix à Edge de choisir l'heure, le lieu et la stipulation. Il n'y a pas de réponse, il se passe rien, Edge n'est pas là, Edge ne dit rien. Donc il lui dit que depuis que sa défaite au Madison Square Garden, Edge est devenu un lâche et qu'il déçoit beaucoup de monde, dont sa propre famille, et que son silence fait preuve qu'il est meilleur que lui. Et tout à coup, une voiture arrive sur le parking. Edge sort de la bagnole, se dirige vers le ring. Seth Rollins se prépare avec une chaise, mais Edge, il arrive trop vite. Il est encore rapide, l'ancien. Il applique un spear. Les deux hommes se battent. Grosse bagarre! Mais au moment où Edge veut appliquer son crossface avec une barre métallique, Rollins va pouvoir s'enfuir. Finalement, Edge va choper le mic. Il va dire que si Rollins veut un nouveau match, il est d'accord. Mais que cette fois, ça se réglera dans un Hell in a Cell match. Alors là, mes amis, ça y est, là, ça rigole plus. Je pense qu'on arrive dans le climax de cette rivalité entre Seth Rollins et Edge. Je pense que là, ça sera pour de bon le dernier match. Je ne vois pas comment ça peut se terminer autrement que par ce match dans la cellule de l'enfer. Alors, je vais commencer avec le saint apôtre de Edge, en l'occurrence notre archange Géliel. Alors, ça y est, c'est parti, Seth Rollins versus Edge. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière déjà.
Tout à fait, on en avait parlé. En plus, la promo est sympa. On attend bien le dernier du dernier moment de la promo de Seth Rollins pour le voir débarquer avec son gros pick-up. Il arrive bien, bien énervé sur le ring. Et puis, sans en faire trop, hein, il annonce le Hell in a Cell. Et puis en plus, C'est l'événement parfait pour finir une rivalité. La tête de Rollins qui du coup s'attendait plutôt à un truc où il pourrait s'esquiver comme il avait fait là déjà, un peu floué, tourné autour, et ben ça va pas se passer comme ça parce qu'avec le New Cell on ne peut pas. Et donc super sympa, super sympa. Ça va finir une bonne fois pour toute la rivalité. Moi je l'appelle de mes voeux puisque j'aimerais bien voir Edge, si ça continue, s'il est encore dans son contrat d'autres matchs, aller taper d'autres, affronter d'autres catcheurs récents. Donc très content de la fin là, et puis qu'on retourne un peu à la bataille plutôt que des interventions à la maison ou un peu trop de discutaillade quoi. Voilà, très content.
Et puis toi, satisfait?
Ouais, plus satisfait aussi. Finalement, ça aurait été notre fil rouge du show bleu. Pour une fois, c'était pas la Bloodline qui s'en occupait, c'était Rollins et Edge, et ils l'ont plutôt bien fait avec une montée en pression tout du long qui venait suite à l'invasion de la maison la semaine dernière. Là, le petit coup de la photo, là, t'en as parlé tout à l'heure, moi j'ai trouvé ça marrant, le mec. Ouais. Oh, au fait, j'ai gardé ça, je vous le rends hein, si jamais vous le croisez. Vraiment, la grosse saloperie de Seth Rollins. Et puis à la fin, le segment final avec l'annonce de la stipulation et les deux celles qui, on en a suffisamment parlé sur ces ondes et pour une fois justifiées. Plutôt que de nous faire un pay-per-view où du coup tu dis bon, tu vois, on va mettre les deux celles sur ce match-là au pif. Là pour le coup c'est la fin d'une rivalité. Tu mets la grosse méga stipulation pour qu'ils se foutent sur la gueule. Ça s'annonce un gros match. C'est dommage ça Crown Jewel, mais par contre c'était finement joué tout au long de cet épisode la montée en pression et puis voilà une grosse rivalité, un gros match qu'on a envie de voir et effectivement voir ces deux gars-là après aller vers d'autres cieux quoi. Je pense que Rollins Arro avec un Big E champion. Et Edge aussi Arrow avec tous les jeunes là qui tournent autour, il y a vraiment qui s'amuse à faire d'autres rivalités sympathiques.
Voilà. Alors, si s'achève ce SmackDown, alors vous savez à SmackDown il y a beaucoup de dark match aussi, donc il y avait eu par exemple il y a eu un dark match entre Aliyah Shotzi et Tegan Nox qui affrontaient Natalia, Tamina et Xiali. Donc Xiali qui commence à faire des petits pas dans le main roster. Kisly qui a battu un jobber, comme à tous les vendredis, j'ai l'impression que tous les vendredis, je vous le dis ça, Kisly a battu un jobber en dark match, et par contre, le public de San Jose, Californie a quand même été gâté parce qu'ils ont eu le droit à un dark main event, ma foi, d'un fort beau gabarit, puisque c'était la Bloodline au complet qui affrontait Finn Balor et les Street Profits. Ça devait être pas dégueu, ça.
C'est sympa, ça. Par contre, le dark match pour un Kisly, c'est-à-dire là où il est contre du moins que rien... Ça sert à rien en dark match, quoi.
Ouais, en fait, il affronte un jobber local à chaque fois. Il affronte un mec local. Ouais, mais ça, si tu veux, c'est quelque chose de très ancien, ça. Et Là, en fait, si tu veux, toutes les fédés à la WWE et WWF, déjà dans les années 80, elles pratiquaient ce genre de truc, quoi. Elles faisaient venir un mec qui démolissait, qui faisait des squash matchs pendant des semaines et des semaines, elle le baladait de ville en ville et il venait et puis on le testait, on en profitait, etc.
C'est ça, ouais.
Et ça marchait ou ça marchait pas, hein?
Et ce que j'allais dire, c'est aussi pour le tester un peu, pour qu'il puisse travailler son personnage, je pense qu'il se lit. Parce que là tu, hormis le gros, le 3 versus 3 avec la Bloodline qui semble être le cadeau pour le public, le reste, ça reste plutôt des tests pour débutants, j'ai l'impression, entre, tu m'as dit, il y avait Keith Lee contre le Jobber. Et de l'autre côté, t'avais Chosy, Alia, Tegan Nox et Shali. Donc,
les
nouvelles, quoi. Donc,
c'est clair, ouais.
Donc, je pense que c'est aussi pour tester les débutants, tester leur capacité à se mouvoir devant la foule. Et puis, leur réaction, la réaction de la foule vis-à-vis d'eux, quoi. Et je pense que Keith Lee, comme ils sont en train de totalement changer son personnage, ils sont certainement en train de tester comment il va faire pour être un bon heel pour bien se faire huer, quoi.
Ouais. Ce qui est fou, c'est que même Cage Match, arrive même pas à avoir les noms des jobbers qui affrontent Kisly, quoi. Parce que tu sais, le mec, c'est tellement un local de chez local, ça se trouve, c'est le mec, il habite à 200 mètres de l'aréna. Il dit, ouais, moi, je veux bien prendre un big catastrophe ce soir. Donc voilà. Alors, avant de passer à notre top flop note, je voulais qu'on parle un peu, du coup, avec vous deux, du sentiment un peu sur après ce post-draft là, on est rentré directement dans le booking de Crown Jewel et en particulier avec l'arrivée des deux tournois, donc le tournoi masculin et son pendant féminin, que je trouve que ce n'est que justice qu'il y ait un pendant féminin. Du coup, on a eu un truc assez, enfin je trouve en tout cas assez traditionnel de la part WWE, 8 catchers, voilà, des quarts de finale, demi-finale, voilà, taking of the ring en 3 victoires. Donc ce qui peut toujours être intéressant. Des King of the Ring, il y en a eu des très oubliables et puis il y en a eu des inoubliables dans l'histoire de la WWE. Alors vous pensez quoi tous les deux là, les deux tableaux, si vous faites un peu un parallèle, une comparaison entre le tournoi féminin et le tournoi masculin, le truc il est facile à booker parce qu'avec le quart de finale ça a commencé dès ce vendredi, ça va aller jusqu'à Crown Jewel avec les finales à Crown Jewel. Donc je sais pas qui commence, papy, t'es emballé par ça, ça t'intéresse pas ou qu'est-ce que tu penses des rosters, etc. Des
Moi,
line-up.
je suis toujours plutôt fan des tournois. Je trouve que ça permet toujours d'occuper un peu les weekly. Puis en plus, le statut de King et bientôt de Queen of the Ring, je pense que c'est des trucs qui peuvent être très sympas si c'est bien utilisé, s'ils y vont à fond dans la gimmick, quoi. Mais dans ces tours, on en parlait pour la draft l'autre jour. Moi, c'est le genre de sujet sur lesquels il faut y aller à fond pour que le délire soit complet, quoi. Faut pas le faire en demi-mesure avec juste une pauvre couronne et puis c'est parti. Au niveau des rosters dans les tournois, je trouve que sur les gars, tu as une sacrée différence entre la partie SmackDown là, avec les deux matchs qu'on a eu ce soir et les deux matchs qui les attendent à Raw. Parce que de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça sera un Xavier Woods contre Ricochet. Alors voilà, low card de chez low card. Et après, en face, tu auras un Kofi. Donc ça va encore, versus Jinder Mahal. Oh putain! Et donc ça fait pas vraiment rêver. Et côté filles, je trouve que par contre, côté filles, c'est super cheap. Alors, il y a un souci avec les filles, c'est aussi parce que la plupart des filles intéressantes, elles sont toutes bouclées dans les pay-per-view. Et du coup, tu as les dommages là qu'on a eu, mais côté Raw, ce sera pas forcément mieux non plus, parce que je crois qu'on a Doudrop Natalia et un Baszler contre Dana Brooke. Oh putain! Oh non, mais ouais, heureusement que je suis la Baszler, quoi. Mais j'espère pour elle qu'elle va se qualifier, même si c'est pas forcément gagné. Voilà, donc je suis un petit poil déçu sur les line-up. Je trouve qu'ils auraient pu, quitte à relancer les tournois, mettre des mecs vraiment sympas et puis et voilà et des je sais pas, Raw, t'avais des Drew McIntyre, des Sheamus, t'avais encore Jeff Hardy qui était encore affilié à Raw. Enfin, tous ces gars-là, ça aurait été plus sympa de les voir dans le tournoi quand même.
Ouais, je suis assez d'accord. Géliel?
Pareil, autant je suis hyper fan du truc, hein. Ça fait des, au lieu d'avoir des matchs qui tombent de nulle part, on sait même pas trop pourquoi. Bah là, ça fait quand même deux fois quatre matchs qui ont un sens, qui amènent vers quelque chose, etc., etc. Donc, je suis très content. Ça fait deux fois six même avec les demi-finales. Donc, vraiment très content par rapport à ça. Le roster est effectivement. Et juste, alors ça donne aussi à réfléchir sur la profondeur du roster féminin de la
Ah oui.
WWE. Parce que, effectivement, en fait, tous les gros noms, voire les semi-gros noms, sont occupés déjà sur des feuds de main event. Ça veut dire que là, on va racler, 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 quoi. Zelina Vega, Doudrop, quoi, qui a rien fait, qui se retrouve dans le truc. Ça donne vraiment pas envie. Dana Brooke, c'est ses nouveaux abdos contre Shayna Baszler, d'accord, mais ouais, enfin, non, c'est très très cheap comme tu disais. Enfin, même la finale quelle qu'elle soit, ça va pas opposer grand-chose. On a déjà un Carmella contre merde,
Zelina.
Zelina, qui, enfin, donc il y avait une des deux en finale. Enfin, c'est catastrophique. Donc non, franchement, au niveau du roster, ça aurait pu faire mieux. Et il y en a qui ont été oubliés, effectivement, même côté mec, qui avait un peu plus de poids que Xavier Woods ou Jinder Mahal, même si j'ai rien contre les deux. Je laisse Ricochet pour tonton. Je ne dis rien sur Ricochet. Mais par
Mais
contre,
vas-y, pourris-le!
non, je l'aime bien en plus Ricochet. Mais mais par contre, Jinder et Xavier Woods, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux, quoi. Ça enlève pas, comme je le dis, hein, tout le bien que je pense de l'organisation de trucs comme ça, avant, c'est-à-dire maintenant, dans la construction des matchs pour l'obtention du titre, et puis après, effectivement, l'histoire qui pourrait être racontée avec King et Queen of the Ring, en supposant qu'ils aillent bien au bout du truc, comme tu dis, papy, quoi.
Ouais, s'ils tombent sur des catcheurs qui embrassent bien cette gimmick et sont capables d'en sortir quelque chose de vraiment bon, parce que cette gimmick de King of the Ring, elle peut être Queen of the Ring dorénavant, peut être très casse-gueule, comme elle peut être porteuse de pas mal de bonnes choses. Donc il y a eu des grands quand même, il y a eu peut-être des King of the Ring un peu insipides, mais il y en a eu des très grands quand même, hein, comme Stone Cold, comme Triple H, comme Booker T.
D'autres côtés comme Nakamura par exemple.
Dans les plus récents, moi j'avais bien aimé le règne de Bad News Barrett par exemple, qui avait
Avec
été un
son
des derniers
sceptre.
King of the Ring qui m'avait vraiment vraiment plu quoi. Et donc moi je vais être un peu la synthèse de vos deux avis quoi. C'est-à-dire que Moi, je suis très content d'avoir un format compétition un peu. Donc, quand on a deux tournois comme ça qui s'annoncent, bah, c'est sympa. C'est sympa d'avoir effectivement un vrai sens sportif, j'ai envie de dire, pour une fois, avec des quarts, des demi, etc. Pareil que Papy, le line-up masculin, moi, je le trouve plutôt bien, même du côté de Raw, en fait, puisque vous dénigrez Ricky La Belle Vie, Ricochet, ou même Xavier Woods. Mais pour moi, Xavier Woods est un des favoris, en fait, à la base du bracket, quoi. Et je serais pas étonné de. Et en fait. Ce qui me pose problème, c'est qu'il y ait Kofi en haut du tableau à Raw, quoi. Kofi, là, il affronte Jinder. Et pourtant, ce King of the Ring aussi, il a une particularité, c'est que c'est plutôt un titre qui va bien à un heel. Et là, du coup, avec ce Finn Balor, Sami Zayn, ouais, ça, c'est pour moi la grosse boulette du côté masculin, c'est d'avoir mis Sami Zayn dans ce tournoi, en fait. Il n'aurait pas fallu mettre Sami Zayn, puisque on savait que. Enfin, ça bousille le booking pour les demi-finales et pour la finale, quoi. Voilà,
Bah,
on
ou le
sait
faire
déjà
perdre au
que.
premier tour, quoi.
Ouais, ou tu le fais perdre au premier tour, à la rigueur, ouais, même si ça n'a aucune utilité, mais pourquoi pas, tu le fais jobber. Mais voilà, donc ça, c'est le défaut. Sinon, le line-up masculin, moi, je le trouvais plutôt sympa. Et après, bah, pareil que vous, bah, malheureusement, le line-up féminin, ouais, il est archi faiblard. Vraiment, vraiment archi faiblard. Si, à la rigueur, celle qui avait un peu de hype, comme Liv Morgan. Peut-être aurait pu aller au bout, parce que comme on l'a dit, là, c'est la finale, c'est une demi-finale Carmella Zelina. Alors que c'était peut-être Liv Morgan qui, en allant au final, était celle qui développait le plus de hype, donc pourquoi pas. Et de l'autre côté, moi, du tableau, côté Raw, moi j'espère qu'une seule chose, c'est que Shayna Baszler va rouler sur tout le monde. Et puis d'ailleurs, j'espère que Shayna Baszler va gagner tout simplement la Queen of Spades. Et ben j'espère qu'elle va devenir la Queen's Crown. Et qu'on n'en parle plus, quoi. Voilà, qu'elle casse des gueules à tout le monde. Et qu'elle devienne une vraie championne heel, une reine heel. Je pense que ça le ferait tout à fait bien, quoi. Après, aller chercher la peau de Charlotte, par exemple, pour Shayna Baszler, puisque Shayna Baszler, elle est à SmackDown dorénavant. Donc, moi, je trouverais ça plutôt pas mal. Donc, finalement, on a un peu des avis assez similaires, tous les trois, quoi. On a vu un peu de cet œil. Donc, du coup, on va pouvoir passer au top flop note de ce SmackDown du 8 octobre 2021. À Saint-Ros, c'est. Alors, allez, Géliel. Le top flop note du monde merveilleux du show bleu.
Alors, de
T'en
mon
deviens un
côté,
chroniqueur, tu deviens un chroniqueur régulier de SmackDown en plus, quoi. Donc, ma foi, un connaisseur.
ça me fait, oh, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça me fait bien plaisir effectivement de participer. Et si ça contribue à donner de l'allant à tout ça, eh ben, je suis très content. Et merci encore à vous. Mon top catchesque sur Finn Balor Cesaro. J'ai vraiment bien aimé le match, vraiment. Ça manque de gros matchs techniques comme ça où ça se balance dans tous les sens, ça rebondit. Donc moi j'aime bien les techniciens, donc j'aime bien ça. Je sais pas si bon vous allez le mettre forcément le retour de Edge, donc je le dis pas. Je sais que vous allez le mettre en top. Donc et en flop par contre je vais mettre Carmella qui me fatigue à un point infini. Donc voilà. Fatigue avec son cri, sa tête, sa gimmick, je ne supporte pas.
Vers
Donc, qui...
l'au-delà et l'infini.
ah ouais, mais carrément, carrément. Et puis la note, très sympa, je mets un 3-5 parce que j'ai bien aimé. Il y a eu un peu moins de catch que parfois. C'était le seul petit truc un peu en retrait. Et sinon, voilà, du tournoi King of the Ring, Queen of the Ring, un peu de backstage, un peu de construction, plus une promo que finalement j'ai quand même trouvé vraiment sympa de Paul Heyman, malgré tout, qui me fait toujours bien, bien rire. Et donc voilà, 3-5 sur ce SmackDown avant le Supercharged de la semaine prochaine.
La sentence du papy anti-athémie. Tantan!
Ouais, je pense que Gilles aurait dû donner son top Edge parce que du coup, il comptait sur nous, mais il va pas l'avoir. Donc, non, je plaisante en fait ce qu'il va l'avoir par procuration parce que j'ai donné mon top pour le fil rouge qui était plutôt bien foutu là, avec Rollins qui nous a tenu un peu le truc et puis le Hell in a Cell qui, pour une fois, est bien utilisé. Voilà, mon top en fait, c'est ça, c'est le Hell in a Cell qui tombe à point nommé. Donc, c'est pas Edge, mais c'est la stipulation. J'espère que vous saisissez la nuance. Au niveau du flop, je vais le donner pour le premier tour féminin du tournoi. J'ai trouvé qu'il. Bah voilà, et je suis 100% d'accord pour dire qu'il faut que c'est très bien de mettre du temps en tête pour les filles et un tournoi féminin, tout ça. Et je rejoins l'ami Gilel quand il dit bah, ça nous reflète un peu la profondeur du roster féminin. Mais là, c'était pas des grands noms et en plus, ça a duré 2 minutes et 2 minutes. C'est limite, on dit, t'as l'impression que le ressenti, c'est on les a mis parce qu'on est obligé de les mettre. Bon, c'est pas forcément le ressenti que j'ai envie d'avoir pour du catch féminin, mais peut-être que avec la future Queen of the Ring, ça sera mieux, tout ça. On verra bien comment ça se passe. Et pour la note, je suis moins emballé que Géliel, parce que on est en période un peu bâtarde là, avec le Crown Jewel qui approche. Le tournoi qui démarre, mais où tu sais à peu près comment ça se finit, où t'as des idées. Les rosters qui sont pas définitifs, parce que non, on a décidé qu'on faisait la draft 3 semaines avant que ça prenne effet. Et donc, du coup, t'as les histoires qui, du coup, sont en fin de vie, en queue de boudin un peu parfois. Enfin, tu vois, notamment tout ce qui est Corbin et Kevin Owens. Enfin, voilà, quoi. Donc, je me dis vivement dans 2 semaines qu'on redémarre avec les rosters définitifs et du coup des histoires fraîches. Et dans l'attente, bah, du coup, je pris un SmackDown assez neutre et donc je lui ai donné un 2,75.
75. Eh ben, écoute, moi, je vais vous dire que finalement, moi, j'ai été assez déçu en fait par ce SmackDown que j'ai trouvé bien plus faible que les derniers qu'on a eus. Et moi, en fait, je trouve que c'est assez foiré, en fait, tout ce lancement de King of the Ring, et du fait du booking du côté masculin, du fait de la faiblesse du line-up côté féminin, et que vraiment, si on nous présente justement un line-up pas trop fort, etc., bah, qu'on propose des matchs, qu'on propose un peu quelque chose, et là, 4 minutes tout bouclé entre les deux, là, c'est vraiment, ouais, c'était vraiment très, 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 très pauvre. Et je suis assez déçu, en fait, quoi. Il n'y a pas eu grand-chose de catch, hein. Le Sami Zayn Rey Mysterio, ça a duré 7 minutes 58. Et le main event catchesque, Finn Balor, Cesaro, au final, on a 11 minutes 25 exactement de match. Bon, il s'est pas passé grand-chose, effectivement. Il y a eu beaucoup de segments backstage. Je n'ai pas été super emballé par ce que j'ai vu. J'espère que ça va aller mieux la semaine prochaine avec le booking là, pour Crown Jewel qui va approcher vraiment fortement. Mais ça m'a pas plu des masses. Mon top, je vais le donner à Bianca Belair. Parce que j'ai beaucoup aimé l'opener, etc. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle tient le micro en étant vraiment la top babyface de l'histoire. Et ce magnifique move là, à travers les tables, ça c'était que du bonheur. Et du coup, ça m'a bien plu et j'aime beaucoup Bianca Belair de toute façon. Et depuis, elle fait vraiment une année incroyable. Elle fait partie vraiment des top nanas sans aucun problème. Et c'est vraiment du bonheur de l'avoir évoluée. Et là, surtout, elle est face à l'adversité. C'est pas en plus comme si elle avait commencé sa carrière dans un truc à la cool, tranquille. Non. Elle est au top, quoi. En ce moment, vraiment, je la trouve au top, Bianca Belair, quoi. Donc, faut que ça continue comme ça. Donc, ma note, ça va être assez faiblard, parce que moi, je vais lui donner la moyenne à ce SmackDown, et je vais lui donner un 2,5. Voilà, j'espère que ça va aller beaucoup mieux. Alors, 21 octobre, ça approche vite, hein, on va avoir la semaine prochaine. Ça veut dire que le SmackDown de la semaine prochaine, les amis, c'est tout simplement le Go Home Show de Crown Jewel, puisque Crown Jewel se déroule le jeudi 21 octobre.
Tant mieux, parce qu'on aura le bol de ces trucs avec les rosters à moitié foutus, là. Par contre, juste une petite chose, là on est tous en train de se dire le truc masculin, on imagine déjà à la fin, on sait déjà que c'est Finn Balor qui sera en finale. Si c'est Sami Zayn qui est en finale et qui va en Arabie Saoudite, là on sera tous sur le cul. Hein.
Si, excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de ta phrase, papy.
J'ai dit si on s'enflamme tous en disant que Balor est déjà qualifié, si jamais c'est Zayn qui se qualifie en finale et qui va en Arabie Saoudite, on sera tous sur le cul.
Ah ouais, ah bah ça c'est clair, ouais. Là,
c'est possible ça?
Bah pour moi ça l'est pas, mais le gars qu'on... parce qu'en plus Sami Zayn, faut voir, hein, c'est un catcheur qui est actif sur les réseaux sociaux, qui prend des positions politiques.
Ouais.
Je le vois pas une seule seconde, tu vois, débarquer en Arabie Saoudite, quoi. Ça serait totalement incroyable, quoi.
On aura bien deux matchs féminins là déjà à Crown Jewel.
Donc, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Alors, du coup, si comme ça, à froid, là, donnez-moi votre vainqueur pour le du côté des reines et du côté des rois. Géliel, tu donnes qui vainqueur, là? Un prono...
Un match rebondissant entre Ricochet et Baylor. Un truc...
Ah ouais.
5 minutes. Et puis Finn Balor qui gagne à la fin. Sur un énième rebond dans tous les sens. Non, je sais pas pour Ricochet, mais en tout cas, je sens bien Balor et j'aimerais bien voir Balor gagner. Ça ferait une espèce de compensation par rapport au titre universel qu'il a, à mon avis, pas pu défendre comme il voulait avec le contexte Lesnar.
Et les filles ?
Je peux m'en foutre ou pas ?
Ah bon, tu peux. Hein, t'as
non, Baszler. En revival des Survivor Series, là où elle avait débarqué en cassant la gueule à tout le monde, là, qui était un moment extraordinaire. Et elle a le potentiel pour faire une grosse heal. Il faut qu'elle y aille, quoi. Voilà. Et ça peut commencer par là.
Papy, pour toi ?
Je vais pas être original parce que mon souhait, c'est exactement celui de Géliel, c'est-à-dire le couple Baylor-Baszler. Parce que je trouve qu'il pourrait faire deux grands personnages à ce niveau-là. Avec un Baylor en mode Demon King et Baszler peut-être en tant que chef de gang, j'appelle de tous mes voeux d'avoir une Shayna Baszler leader ouais, d'un groupe. Et par contre, ce que je crains, c'est qu'on mette Carmella et Jinder.
Non.
Ah ouais, ça c'est une probabilité, hein, c'est clair. Hein, et moi je l'ai un peu envisagé quand j'ai découvert les braquettes vendredi soir, enfin dans la nuit de vendredi à samedi, je me suis dit hein, pourquoi pas
quoi. Les bras cassés, les braquettes.
Ouais, ben
les
bras cassés.
Les braquettes sont ouvertes. Hein.
Ouais, parce que pour moi le King of the Ring c'est souvent un personnage heel. Et bon, donc c'est compliqué, faut voir comment ils vont tenir. Demon King, ça aurait de la gueule. C'est surtout que je me dis que s'il fait une entrée en Demon King pour la finale du King of the Ring, notre ami Finn Balor, ça va avoir de la gueule en Arabie Saoudite, hein, dans le stade géant avec les feux d'artifice et tout ce qui bouge. Ça risque d'avoir de la gueule cette affaire. Hein. Donc c'est pas mal. Donc moi je vais donner. Mais je vais quand même, je sais pas pourquoi, mais moi je suis omnubilé par ça et je vais continuer, je vais tenter la grosse cote pour la victoire finale de ce King of the Ring et moi je vais tenter Xavier Woods. Je sais pas, comme ça, j'ai un espèce de truc qui me vient et Xavier Woods et chez les femmes, par contre je suis unanime, messieurs, avec vous, puisque ça sera aussi Shayna Baszler, sans aucun doute quoi. Clairement, Shayna Baszler, il faut qu'elle gagne ce putain de tournoi. Voilà, et bah écoutez, on est arrivé au bout de cette review de Friday Night SmackDown 1155e. Pour en savoir plus, vous pouvez déjà aller écouter en ligne le Monday Night Raw de cette semaine, qui est avec l'honneur du patron, messieurs. Garde à vous, le patron était dans la place pour reviewer Monday Night Raw avec moi-même, tout simplement. Et pour en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre toute la communauté sur Discord. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo YouTube. Laissez-nous les likes, laissez-nous des commentaires. Et pour ne manquer aucun épisode sur la plateforme de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, il ne me reste plus qu'à remercier la triple frite gériatrique. Ça aurait été quelque chose. Eh bien, écoutez, messieurs, mon bon Géliel, merci à toi de ta présence pour ce Friday Night SmackDown.
Eh ben merci tonton pour ce beau hosting et puis merci papy pour les échanges et les commentaires et merci à tous.
Merci papy, tu vas pouvoir t'engouffrer définitivement sous ton plaid.
Oui, merci de me laisser retourner à ma sieste, c'est gentil tonton et merci aussi de nous apporter la petite frite du week-end qui est toujours un plaisir à déguster. Puis du coup merci à Gilles d'avoir mis une autre dose de frites. Hein.
C'est une histoire de frites, cette review. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à Ketchup. Eh bien, écoutez, peuple de Ketchup, on espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à enregistrer, comme dirait notre bon ringside. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait les cornes à linge. Plein de la face, bande de salopards. Salut, Géliel.
Salut, tonton. Salut, papy. Salut à tous.
Salut, papy.
Salut à tous, salut Géliel, salut tonton.
Et salut peuple de Ketchup! Vous m'entendez bien là?
On t'entend, mais il y a des moments.
On t'a perdu, on t'avait perdu.
Il va falloir régler le sonotone.
Plus de piles peut-être?
Je suis perdu, je suis foutu.